Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va parler d'Oppo et OnePlus qui vont peut-être quitter la France, mais peut-être pas, mais peut-être quand même. On a aussi bien sûr le journal de l'IA avec des IA qui vous permettent de parler avec une vidéo YouTube. Un petit peu de sécurité chez Google, un petit peu d'Elon Musk quand même. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech 512, la quantité de RAM qu'il y avait dans les PC il y a quelques dizaines d'années. Non, même pas. Allez, 10 ans, quelque chose comme ça, un petit peu plus. on est en mai 2023, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui trois co-animateurs de talent et de charme, à commencer par le charmant et talentueux Cédric Ingrand. Bonjour Cédric, comment vas-tu aujourd'hui ?
Merci pour le talent, je vais attendre un peu pour le charme.
Mais non, tu vas attendre, tu es charmant tout de suite, immédiatement,
ah oui,
le charme à vie.
D'accord, ok. Non mais c'est bien que ce soit pas juste un truc sexiste, tu vois, sur...
Voilà. Non, mais complètement. D'ailleurs, nous ne sommes que des hommes, mais des hommes charmants. Voilà. À l'exemple de Julien Lausson qui nous vient de Numérama. Bonjour Julien, comment vas-tu ?
Salut Patrick, salut tout le monde. Bah écoutez, ça va bien. Je vais essayer d'avoir le même niveau de charme que vous pour cette session de discussion. On verra bien.
Merci d'être avec nous en tout cas.
Mieux.
Et on a également un nouveau venu, Titouan Gourlin, qui nous rejoint pour la première fois pour nous parler notamment de sa grande enquête sur Oppo et OnePlus. On va y venir dans un instant. Bonjour Titouan, comment ça va ?
Bonjour, bah, ça va très bien, écoute, merci pour l'invitation.
Est-ce que tu te
sens... Je suis un auditeur, je suis très heureux d'être là.
Ah mais quel bonheur, tu vois, je t'aurais invité de toute façon, mais là en plus, si tu es un auditeur, je suis encore plus fier et heureux de l'avoir fait. Est-ce que tu te sens paré à être aussi charmant que nos deux autres invités ? La chatroom en live sur Twitch va juger, hein. Donc,
ah oui, carrément, okay, ça rigole pas. Écoute, on va donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut pour y arriver.
Mais dans l'ensemble, la chatroom fait preuve de mansuétude. Hein,
oui, ben on est quand même des podcasters tech, donc tu vois. Enfin, le charme passe par la voix.
Il y a la cause. Hein, donc.
C'est Léo Laporte qui disait j'ai une tête pour la radio, tu vois. je ne sais pas si ça s'applique à nous, à moi, certainement. À vous, non, je ne crois pas. Mais. Ça ne va pas nous empêcher de parler de tech. On va quand même, avant de se lancer, remercier les auditeurs qui ont rejoint le Patreon. Aujourd'hui, on remercie Alexandre Ivanov, Terry, Christian Janot, FX Lorenzo, Giza XD, ou un petit emoji, Jean-Jacques Guazzo et Bast, que vous réentendrez un tout petit peu plus tard. Je crois que mon épisode sur le sondage des auditeurs a eu un effet incroyable, puisqu'on a plusieurs patriotes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et bien sûr, les producteurs Franck Matignon et Rémi X qui produisent cet épisode, qui ont trouvé le niveau secret sur le fameux patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous qui avez trouvé le chemin comment on dit en français, salvation, de la rédemption.
Ou au moins de la sagesse.
Salut. De la sagesse, voilà. Du salut podcastique qui est de devenir Patreon. Sachez que si vous avez des choses à vous reprocher, c'est religieusement prouvé, devenir patriote, vous lève une bonne partie de vos péchés et des choses que vous avez à vous reprocher vous-même. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, je dis patreon.com/rdvtech. C'est un bon moyen de commencer à revenir sur le droit chemin. Il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Fanny. et je vous encourage tous à souhaiter un excellent anniversaire à Fanny qui fait le booking, le scheduling des invités, qui fait le montage, qui fait la publication, plein de choses. C'est un petit peu la deuxième moitié de la maison de production depuis quelques années maintenant. Donc merci Fanny de ta contribution à mon travail et merci aussi, enfin, et bon anniversaire.
Vous
pouvez retrouver son compte Twitter, c'est Fanny CM, Fanny. Enfin bon, vous cherchez le Passion Médiéviste, qui est son podcast, et vous la retrouverez. Vous pouvez aller lui dire bonjour. C'est Fanny Como sur Twitter, c'est OMO. Vous lui souhaitez bon anniversaire de ma part. Et on va se lancer tout de suite dans les premiers sujets avec donc le sujet principal qui va nous occuper, qui nous change un petit peu de l'IA et surtout de Twitter, même si on y reviendra un petit peu plus tard. C'est, alors je l'ai titré comment ? Je l'ai titré « What the fuck se passe chez Oppo, France ?» qui en même temps pour être un petit peu plus francophone, on m'a reproché d'utiliser trop de termes anglais, anglophones, qui pourrait être plutôt titré plus correctement « Mais quoi le fuck se passe chez Oppo France ?» Et c'est la raison pour laquelle on se lance sur ce sujet, eh ben, c'est l'enquête brillamment menée de Titouan qui a été enquêtée parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec Oppo France et je vais te laisser la parole. Oppo, c'est quand même une marque importante dans l'écosystème Android, d'autant plus qu'ils ont également, notamment OnePlus, c'est un petit peu ceux qui ont redéfini le milieu de gamme d'Android. Et donc, bah, dresse-nous un petit peu le portrait d'Oppo et puis dis-nous un petit peu ce qui se passe chez eux.
Ouais, bah écoute, Oppo, comme tu l'as si bien dit, donc moi je suis spécialiste smartphone, donc je mange du smartphone tous les jours depuis maintenant 2 ans. Et c'est vrai qu'Oppo, c'était depuis peu le numéro 4 français, c'était le challenger qui venait un petit peu, qui grimpait comme ça petit à petit les échelons. Et OnePlus est plus connu, même si c'est plus connu dans le petit milieu de la tech. Et en fait, en termes de vente, ça n'a rien à voir, en tout cas en France.
Et on oublie souvent également.
En France, oui.
Largement. C'est marrant parce que OnePlus a vraiment.
Là, avec la crise, je ne sais plus trop. Oui.
Bah, Oppo, tu le trouves en magasin. Oppo, tu le trouves en rayon, contrairement à OnePlus. Donc OnePlus a toujours ce. C'est un peu comme à l'époque, Huawei versus Honor, quoi.
Ouais.
C'est ça. Et on oublie souvent Realme, qui fait aussi partie qui est la troisième marque du même groupe, donc, qui s'appelle Oplus, que souvent on va appeler BBK, mais qu'en fait l'ancien nom du groupe aujourd'hui c'est Oplus. Et Realme, on avait écrit une enquête qui a fait un peu moins de bruit il y a quelques mois pour dire qu'en France ils avaient une présence un peu fantomatique aussi depuis septembre 2022. Et il semblerait que les prochains sur la liste soient Oppo et OnePlus, même si, comme tu l'as bien dit, partiront-ils, ne partiront-ils pas ? À ce stade, c'est un peu difficile de trancher, c'est ce que je me suis interdit de faire dans mon enquête, parce que est-ce qu'ils sont en train de se repositionner ? Est-ce qu'ils sont en train de repartir sur du tout online ? En tout cas, voilà.
C'est l'une des options qui semble se détacher de ce qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que, est-ce que Oppo est en train de quitter les magasins, mais vendre toujours ses appareils uniquement avec un gros site qui peut-être regrouperait toute l'Europe ou un truc du genre ? Mais avant même qu'on arrive là, je voudrais te demander pourquoi est-ce que Oppo quitterait la France ? Est-ce qu'il y a une raison enfin, j'en sais rien, peut-être géopolitique même, ou technique, ou des questions de vente. Le marché a changé, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il y a deux, je dirais qu'il y a vraiment deux facteurs principaux. Le premier, c'est que l'année 2022 a été catastrophique dans le milieu des smartphones. Il y a eu moins 11% au global sur les smartphones. Et pour certains constructeurs, on a dû... alors, ça va dépendre des études, mais Oppo, c'est plus de 15% je crois de perte en chiffre d'affaires au global. Donc une année assez catastrophique en termes, j'ai plus les chiffres en termes de. C'est des dizaines de millions de smartphones en moins vendus quoi dans l'année. Donc une année très compliquée. Apparemment, donc s'implanter en Europe, ça coûte très cher. En particulier en France, où on a quand même un marché qui est très qui est dominé par deux acteurs, Samsung et Apple, pour ne pas les citer. Et donc, ça, ça peut être une première chose. L'année est difficile, on resserre la ceinture, tout simplement. Mmh. Et il y a un facteur qui... Alors moi, au tout début, je ne l'ai pas forcément vu venir. C'est Nicolas de Numérama, par exemple, qui a tout de suite vu... parce qu'on a un collègue de Numérama dans la room, donc j'en profite pour les citer. Nicolas Lelouch, donc de Numérama, qui a tout de suite vu que c'était important. Donc il y a un procès, en fait, entre Nokia et Oppo. Mmh. Ou plutôt des procès, parce qu'en fait Nokia attaque Oppo dans chaque pays européen. Il y a eu un premier volet qui s'est conclu en Allemagne par la fin des ventes des smartphones et des produits Oppo en règle générale en Allemagne. Et a priori, on pourrait avoir tout à fait la même chose en France. Je ne sais pas, j'essaie de l'obtenir en posant des questions à droite à gauche, mais je n'arrive pas encore à l'obtenir. J'avais même posé la question à Julien d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. S'il avait des idées sur comment trouver ça, Julien Lausson. Quelle est la date de ce procès ? Enfin, à quel moment est-ce qu'on va avoir le délibéré, le résultat ? A priori, c'est pour bientôt, mais on ne veut pas me la donner. Et ça pourrait être un peu un coup de tonnerre, ça pourrait être ce qui vraiment signe la fin de la récré.
C'est une question, on est d'accord, c'est une question de brevet qui fait que ça deviendrait encore plus cher. Mais au-delà de ça, est-ce que la c'était une lentille, parce que comme tu le disais, les OnePlus, on en entendait parler tout le temps dans les milieux de reviewers de smartphones. C'était vraiment, pour le rappeler aux auditeurs qui ne le savent peut-être pas ou qui l'ont oublié, il y a quoi, 5, 6, 7 ans, les OnePlus ont commencé à arriver et ils offraient à des tarifs allant de, je sais pas, 3, 4, 500 euros, des téléphones qu'on trouvait jusque-là en qualité, en performance technique, qu'à des prix qui étaient à 6, 7, 800 euros. Quoi. Ils ont vraiment complètement cassé le modèle. Est-ce que les choses ont tellement changé, ou peut-être que tout le monde a adopté ces types de tarifs, les choses ont tellement changé que du coup, Oppo n'est plus... Enfin, clairement, ils vendent moins à cause de leur, du Covid et de leur année difficile, peut-être. Je ne sais pas si c'est le Covid, d'ailleurs, mais différentes raisons.
Il y a d'autres...
Ouais, il y a d'autres raisons. Mais est-ce que le panorama du marché des smartphones a changé depuis cette période où tout le monde parlait d'eux et on est dans une configuration où ces smartphones sont plus aussi exceptionnels, sont plus aussi attractifs, est-ce qu'ils ont moins le vent en poupe, quoi?
Alors sur OnePlus spécifiquement, ce dont tu parlais, c'est le fameux flagship killer. C'est eux qui ont un peu inventé ce terme de faire un smartphone qui pour 300-400 euros, grosso modo, va pouvoir concurrencer ce qu'on appelle un flagship, donc un smartphone beaucoup plus cher. Et ça, ils l'ont un peu perdu avec
Samsung.
Voilà, c'est-à-dire pourquoi aller plus loin, pourquoi payer plus cher si j'ai quelque chose de tout à fait correct en termes de performance et il y a plein de niveaux pour beaucoup moins cher. Et en fait, ça, c'est quelque chose... voilà, il y a eu beaucoup d'articles il y a 2-3 ans pour dire est-ce que OnePlus est encore OnePlus. Il semblerait que ce soit plutôt OnePlus qui ait changé. Hein. Vu que tu m'interroges sur OnePlus, c'est vraiment... est-ce qu'ils n'auraient pas perdu un petit peu leur mojo, leur âme en chemin, en sachant qu'il y a un des deux cofondateurs qui est parti, donc Carl Pei.
Oui, qui allait faire
et qui aujourd'hui a fondé... Voilà, qui a fondé Nothing, et qui Nothing, alors ça pourrait changer aussi, mais qui est aussi un peu sur le même positionnement. Ils ont un téléphone aujourd'hui qui s'appelle le Nothing Phone, qui coûte 450 euros, et qui aussi se positionne un peu comme un premium qui n'en a pas le prix, quoi. Donc est-ce que c'était pas lui aussi l'âme de OnePlus ? Alors évidemment, ça ne tient pas qu'à une personne, mais voilà, il y a toutes ces choses-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'OnePlus aujourd'hui, c'est des smartphones un peu plus rangés, on va dire. Leur smartphone premium, même si par exemple le dernier, le OnePlus 11, on lui a attribué un 9 sur 10 chez Frandroid, on a beaucoup aimé, mais c'est plus difficile de se démarquer à partir du moment où on a le même prix que les autres et,
ouais, tout le monde a adopté le modèle OnePlus Oppo et des flagship killers, c'est un peu tous les mid-range,
tout le monde va le tout à fait. Oui, puis le marché, c'est beaucoup, j'ai envie de dire, c'est plomplonisé, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu très mature et ça bouge plus beaucoup. Voir les différences d'un smartphone, même premium, qui est censé être l'apanage de ce qu'on fait de mieux dans un marché, etc. même voir les différences d'un premium sur le premium d'une année sur l'autre, c'est très compliqué. Et nous, dans nos articles, on s'efforce tout le temps. Alors nous, on est tout le temps nés dedans, donc c'est facile. Mais pour le consommateur, bon, ça saute pas forcément aux yeux. Et ouais, Oppo, bah, disons que ils ont réussi à s'implanter comme top 4 en France, hein, mais c'était très fragile. Ça a été une année, c'était tout récent. C'est vrai que quand on a commencé à voir les premières rumeurs de départ ou de difficultés, on se demandait parce que c'était plutôt, on avait plutôt une dynamique inverse. Ils étaient en train de conquérir un marché. Mmh. Mais a priori, ça s'est terminé.
Du coup, c'est un peu ce qu'on peut... Enfin, c'est une conséquence du fait qu'il n'y a plus d'opportunité de disruption, de disruption du marché, parce que tout est calmifié, comme on dirait aussi en bon français. Et du coup, on revient au sujet principal. Qu'est-ce qui se passe avec Oppo alors ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que tu as pu tirer comme conclusion ou au moins comme information dans ton enquête ? Alors,
bah, ce que je peux expliquer, c'est pourquoi j'ai principalement parlé d'Oppo, c'est que OnePlus n'ont pas de présence en magasin. C'est uniquement du online. Et donc, moi, mon objectif dans cette enquête, c'était d'aller trouver par une enquête de terrain des informations, de les recouper. Et donc c'était plus difficile d'avoir des interlocuteurs. J'aurais aimé plus développer sur OnePlus. Et donc je me suis concentré sur Oppo parce que j'ai eu des témoignages qu'on peut retrouver dans l'enquête de vendeurs. Enfin, je dis vendeurs parce que c'est le terme qui va parler à tout le monde, mais en réalité ce sont ce qu'on appelle des animateurs commerciaux, des gens qui font de l'animation commerciale. Très rapidement, pour comprendre un peu ce rôle, c'est des gens qui vont avoir un peu un rôle d'ambassadeur. Ils vont venir dans les magasins, ils vont pousser à la vente par divers leviers, en mettant en avant les produits, etc. C'est un peu des vendeurs plus-plus, quoi, si on pouvait résumer
c'est
comme ça.
C'est des gens qui sont employés par Oppo ou les gens qui sont employés par les magasins et qui vont travailler... Enfin, je veux dire, des gens qui sont employés par Oppo qui vont travailler dans les magasins, ça se passe comment ?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Ils sont employés par un sous-traitant qui est payé par Oppo pour faire ce travail-là. Donc, c'est la force de vente, comme on appelle ça aussi, qui est... voilà, tout le monde fait ça hein, dans le marché de la téléphonie. Et en fait, comme je l'explique dans le papier, autant Apple, par exemple, ils en ont pas tant que ça parce qu'ils ont des magasins à eux, etc. Ils n'ont pas forcément besoin de faire ça. Un Samsung, ils vont en avoir, mais... mais disons que ça se vend tout seul, Samsung, alors que toutes les marques qui essayent de s'implanter sur le marché français, c'est capital. C'est-à-dire que c'est vraiment capital, c'est obligatoire. Et donc, pourquoi j'ai enquêté sur cet aspect-là précis des choses, c'est qu'en fait, j'ai eu des témoignages qui m'ont fait remonter qu'il n'y avait plus d'animation commerciale d'Oppo en France. C'est qu'en fait, ces gens-là travaillent pour ce sous-traitant qui s'appelle Atmosphère, qui est très connu dans le milieu, et qui et en fait ils sont tous soit en chômage partiel, soit ils sont en train d'être mis sur d'autres missions, et donc et le contrat qui liait Atmosphère et Oppo a pris fin très brutalement d'après ce qu'on m'a remonté.
Oui, c'est ce que tu dis, ils ont pas payé une partie de ce qu'ils devaient à Atmosphère. Et donc ces gens-là qui sont des gens en fait mandatés, payés par Oppo. Par l'intermédiaire de l'intermédiaire que tu retrouves dans les magasins, en fait, c'est des vendeurs au pot, quoi. Donc, est-ce que ils sont là, c'est une autre question, mais est-ce qu'ils sont facilement identifiables si tu vas chez un, je sais pas, n'importe quel vendeur de smartphone, tu parles à quelqu'un, est-ce qu'il a un petit logo Oppo sur la, qui va essayer de te vendre un Oppo ou un Oppo, j'allais dire un OnePlus, mais ils sont pas en magasin. Tu sais que c'est quelqu'un qui travaille pour Oppo ou t'as l'impression que c'est quelqu'un qui travaille dans le magasin en question?
Normalement, oui, ça fait vraiment partie de la mission. Ils vont souvent avoir une petite carte, quelque chose autour du cou avec écrit. Voilà, on en croit souvent encore aujourd'hui pour d'autres marques. Donc, non, c'est. Mais disons que après, je pense que pour le quidam, le client. Moi, je l'ai observé un petit peu parce que donc je suis allé faire des petits tours dans les magasins pour enquêter. On voit bien quand même que. C'est identifié, mais c'est pas non plus. Ils sont dans le magasin, ils viennent discuter un petit peu des avantages de tel ou tel produit. Je pense que les gens, ils font peut-être pas forcément
La différence.
La distinction. À tous les coups, ça va jouer un petit peu là-dessus aussi, quoi.
Ouais.
Ok. Même et si donc, c'est clairement identifié.
Ouais. Et donc, Oppo a arrêté de payer, notamment Atmosphère. Il se retire des magasins. Il y a plus de présence physique par cet intermédiaire d'Oppo. Mais t'as pas réussi à avoir une confirmation. ni dans un sens ni dans l'autre, avec il y a quand même des échéances, mais donc on ne sait pas ce qui se passe avec la marque et s'ils partent ou pas, et comme tu le disais, tu ne conclus pas dans l'article.
Non, de la part d'Oppo, j'ai aucune confirmation. Moi, j'avais une date qui m'était donnée, qui était celle du 30 juin. Je leur ai posé la question sur le 30 juin, ils m'ont dit on sera encore là après le 30 juin. Bon, comme je le dis dans l'article, ça dépend sous quelle forme, c'est-à-dire qu'ils peuvent être une coquille vide ou enfin bon. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû poser la question très loin.
Non, mais après, t'aurais pas répondu, hein. Ça, leur message.
J'ai essayé de trouver la bonne formulation.
Ils n'attendaient pas ton arrivée pour faire l'annonce, tu vois ce que je veux dire.
Non, bien sûr, évidemment. Et donc,
mais la manière dont ils répondent, on sera encore là après le 30 juin, ça peut être, c'est pour ça qu'on imagine des pistes comme une présence par un site web qui serait géré au niveau européen, par exemple. Ouais.
Tout à fait. Et par contre, ma remontée de terrain, enfin. Voilà, les gens que j'ai rencontrés sont beaucoup plus catégoriques. Ouais. Eux, ils sont beaucoup plus « c'est terminé Oppo, on les verra plus ». Alors après, bon, vu que ce sont des gens qui travaillent dans les magasins, il y a peut-être aussi ce... Donc c'est pour ça que je suis prudent là-dessus. C'est difficile, tant qu'Oppo n'a pas tranché. Je pense que aussi ils attendent vraiment le résultat de l'affaire Nokia. Tout simplement, ça va vraiment déterminer. Si on leur stoppe les ventes ou s'ils doivent payer des royalties pas possible pour les brevets,
Service de oui. Très bien. Bon bah écoute, merci pour ce petit topo sur Oppo. Pardon. Mais c'est intéressant de voir à travers cette histoire la nature de l'écosystème des smartphones en France, parce que c'est vrai qu'on s'y intéresse un petit peu moins ces dernières années, mais ça reste la porte d'entrée à Internet principale dans le pays. Il y a beaucoup plus de gens qui utilisent la tech et Internet par leur smartphone que par leur PC ou Mac. Donc, c'est intéressant de l'étudier également. On va continuer avec... Merci, tu restes avec nous, hein, bien sûr, dis-toi. Ouais. On va continuer avec notre petit journal de l'IA, où on vous fait état des choses intéressantes qui se passent dans le monde de l'IA depuis quelques semaines, quelques mois. D'abord, on l'avait vu avec Harry Potter Balenciaga, Harry Potter Star Wars Balenciaga, il y avait du Balenciaga partout. Maintenant, la mode est un peu à Harry Potter et de faire des créations Harry Potter de tout. Il y a même Harry Potter The Walking Dead avec tous les personnages genre recréés dans des ambiances sanglantes de Walking Dead qui sont assez terrifiantes. Et moi, je trouve ça fascinant qu'on puisse créer ces choses. Évidemment, il a toujours été possible de faire des fan art, des trucs comme ça. Mais là, on en a ça envahit la culture populaire. En l'occurrence, c'est Harry Potter qui est à la mode maintenant pour ça, mais toutes les licences vont y passer et puis ça va devenir commun, quoi. Mais c'est très drôle aujourd'hui. Midjourney 5.1 est disponible. On vous disait que ça avance vite. Eh bien, la version 5 est sortie il y a quelques semaines à peine. La version 5.1 est dispo aussi. Je vous laisserai vous renseigner si vous voulez des détails sur les améliorations ou les changements. Je pense qu'on peut dire même que plutôt que des améliorations.
Ils auraient pu l'appeler V6, hein, honnêtement. Hein.
Ah oui, c'est à ce point. Moi, je n'ai pas beaucoup joué avec, j'avoue. C'est incroyable.
Non, mais c'est-à-dire qu'il faut revenir, il faut aller chercher les images que Midjourney générait il y a 6 mois, 9 mois, un an, pour voir le... Enfin, c'est-à-dire que pour rester dans l'analogie du smartphone, on est passé du Nokia 3310 à l'iPhone, je ne sais pas, mais pas loin quand même. Enfin, c'est bouleversant, c'est dingue. C'est dingue parce que là où, même sans être spécialiste du cru, on peut comprendre comment fonctionne un ChatGPT, tu vois ce que je veux dire, en disant « ah oui, d'accord, ok, le Large Language Model, etc. » Là, c'est amusant parce qu'on touche du doigt un truc qui ressemble plus à de la magie. C'est-à-dire que comment fait-il pour générer en moins d'une minute une image où, si je t'en donnais le modèle 3D, ta machine mettrait beaucoup plus de temps à la générer. Et avec une précision, enfin c'est diabolique, quoi. C'est-à-dire que là où on se disait la vie va être peut-être un peu plus compliquée pour, je sais pas, les gens dont le graphisme est le métier, etc. Là, on s'aperçoit que la vie va être beaucoup plus compliquée pour les mannequins, par exemple. Parce que si tu veux, tout à coup, t'as plus besoin de mannequins. Si tu veux faire une double plage de publicité, vas-y. C'est intéressant parce que moi, j'ai un compte pro chez Midjourney. que je sous-utilise complètement parce qu'en fait, pareil, ouais. Bon, bref, voilà. Mais c'est aussi parce que je, voilà, moi c'est pour encourager ce genre d'initiative, pour contribuer à la cause. Et mais du coup, tu sais, quand tu vas générer des images, tu vois ce que d'autres font. Mmh. Et là où il y a quelques mois encore, c'était justement rempli de gens qui se faisaient des images pour leur partie de Donjons et Dragons, parce qu'évidemment, c'était très fort pour faire des images pour lesquelles la comparaison avec la vie réelle ne fonctionnait pas. Donc,
des illustrations, des trucs comme ça, mais ce n'était pas photo.
Voilà, ça, de trucs, des couvertures de romans de SF, des affiches de conventions de machin, alors ça, j'avais tout vu passer. Et l'évolution majeure, j'ai envie de dire, mais c'est évidemment très empirique, parce que personne ne voit tout ce que fait Midjourney, c'est que je vois des gens qui, clairement, bossent pour des agences de créa, des agences de pub, etc., etc., et qui ont des agences de design, voire même de design industriel, et qui passent leur journée à générer des ébauches, des machins, des essais, des trucs, voire des choses vraiment beaucoup plus abouties. Moi, à un moment, j'étais fasciné, parce qu'évidemment, tu gères ça sous Discord, et pendant une heure, j'ai regardé un type qui refaisait des générations du même truc, jusqu'à arriver au truc qu'il voulait, qui était censé ressembler à une page de catalogue des années 70. Enfin, c'est ouais. Fascinant. Et je reviens à l'idée de la magie, c'est-à-dire que ça fonctionne sans vraiment que tu comprennes comment. Tu comprends l'intention, tu comprends le résultat, mais alors comment tu passes du cochon à la saucisse, là, on est encore un peu dans le mystère, quoi.
Ouais. Il y a d'autres choses intéressantes qui se passent. Microsoft a rendu Bing Chatbot accessible à tous. Et en plus de ça, il peut maintenant gérer les images et les vidéos, les résultats images et vidéos. Il y a un historique, il y a des plugins, etc. Enfin, ça continue à avancer, y compris du côté de Bing, du chatbot de Bing. Je mentionne aussi que la grève des scénaristes, dont vous avez sans doute entendu parler à Hollywood, est en grande partie basée sur les questions d'IA également. Alors, peut-être, je vois Cédric qui fait la tête. Peut-être pas en grande partie, mais en tout cas, au-delà des mini-rooms et de ce genre de choses, il y a une préoccupation claire sur l'utilisation de l'IA. Les deux choses qu'ils font ressortir, c'est d'une part l'utilisation de leur travail pour l'entraînement des IA, et d'autre part, le fait qu'ils ne veulent pas devenir des retravailleurs de scripts brouillons écrits par des IA. C'est parce qu'ils voient les choses venir. Eux, ils écoutent le rendez-vous tech, donc ils savent que les choses changent. Mm-hmm. En même temps, l'IA, c'est difficile de l'ignorer. Et donc, c'est une des revendications qu'ils ont, ou en tout cas des points de discussion qu'ils ont avec les producteurs entre les producteurs et les auteurs. Donc voilà, l'IA est vraiment partout. Je voudrais qu'au-delà des questions... S'il y avait une discussion autour de... Et là, peut-être que Julien pourra nous en parler aussi, mais il y a des labels qui commencent à faire supprimer des morceaux de musique envoyés sur les plateformes de streaming, qui sont créés avec des IA, notamment avec la voix clonée d'artistes. Et ça pose un vrai problème légal, parce que visiblement, toutes les lois de copyright qui sont là pour protéger le contenu qui est protégeable par copyright, par droit d'auteur, et ben en fait, rien de ce qui est créé avec les IA n'est copié de contenu copyrightable. C'est-à-dire que la voix c'est pas de d'une la personne... Il y a des éléments qui sont... éventuellement, il y a le droit à l'utilisation de son image qui peut rentrer en ligne de compte. Mais la question du copyright, en fait, ne s'applique pas aux chansons créées avec des voix clonées, par exemple. Ce qui m'a un petit peu surpris.
Non.
T'as un effet de régénération du timbre de la voix, mais avec des agencements de thèmes, de mots, des phrases inédites que les chanteurs n'ont peut-être jamais utilisées dans leurs paroles. Donc, du coup, c'est un vrai problème. Tu protèges du texte écrit, tu protèges une interprétation orale de la chanson, mais après, comment tu articules après le mécanisme du droit d'auteur lorsque tu es sur un sujet d'un timbre de voix qui lit en fait une phrase inédite.
Oui.
Comment est-ce que voilà c'est ni du texte.
Ça veut dire interdire l'imitation en fait. la limitation, elle n'est pas interdite. Dans, je veux dire,
Weird Al Yankovic, par exemple, mais c'était clair que ce n'était pas lui, mais on peut le labelliser.
Oui, hein, alors la question, c'est aussi celle de l'intention. C'est-à-dire que si tu sors une vraie fausse chanson de Drake et que tu dis, regardez, c'est une chanson de Drake, alors que ce n'est pas une chanson de Drake, là, de toute façon, on est dans de la contrefaçon. C'est-à-dire que tu, voilà. Mais si tu dis, regardez ce que j'ai généré qui ressemble à du Drake, c'est difficile pour l'artiste de se retourner vers toi si t'es pas dans la copie, si t'as pas repris ses samples, si, etc. L'inspiration dans l'art, c'est un truc absolument constant. C'est des choses que j'ai déjà raconté ailleurs, mais j'ai le souvenir d'une super, une magnifique expo, il y a peut-être, je sais pas, presque une dizaine d'années au Grand Palais. C'était Picasso et les maîtres, et on voyait côte à côte l'étoile de Picasso et l'étoile de maître qu'il avait inspiré. Pourtant, les descendants de ses maîtres n'avaient pas attaqué Picasso en disant, mais attendez, je trouve que quand même, vous avez regardé d'un peu près les... Mais non, c'est normal. Dans la musique, j'écoutais un podcast génial avec un des grands producteurs de musique qui s'appelle Rick Rubin, qui a fait à la fois du hip-hop, qui a tout fait, et qui disait, vous savez, il y a des choses en musique qui arrivent sans que ce soit l'idée d'un seul. C'est-à-dire, il prenait un exemple, il dit le punk est arrivé au même moment des deux côtés de l'Atlantique. Pourtant, il n'y en a pas un qui s'est inspiré de l'autre. Il y a les Sex Pistols à Londres et les Ramones, tout ça, etc. Il y a des choses dont le moment est arrivé et c'est comme ça. C'est pas... Donc, s'appuyer sur le copyright pour protéger ce genre de choses, ça veut dire... je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Il y a des choses qui fonctionnent. Tu as le droit de faire des reprises, tu vois ce que je veux dire. C'est déjà géré, en tout cas, dans une démarche commerciale. Après, si toi, si tu t'amuses, tu vois, de refaire des chansons de X, Y ou Z et de les publier juste en disant, voilà, ce que je ne prétends pas que ce sont les vrais, et si en plus, tu n'en tires pas un bénéfice particulier, c'est un peu compliqué. Ce serait un peu comme s'attaquer aussi à la fanfiction, en fait. Tu vois, des gens qui ont fait des milliers d'épisodes de Star Trek écrits sur le coin de l'écran.
Tu vas aussi avoir un problème aussi de quantification et d'attribution. Là, on parle d'une intelligence artificielle qui se focalise que sur une voix d'auteur pour un texte qu'il génère, mais on parlait de ChatGPT tout à l'heure. ChatGPT, ces modèles de langage absorbent des quantités astronomiques de données sur Internet. On parle de au moins 500 gigaoctets pour avoir entraîné GPT-3, donc 500 gigaoctets de texte, c'est beaucoup de texte. Il faut imaginer énormément de texte, c'est pas du tout comme de la vidéo.
C'est plus que Wikipédia.
C'est beaucoup plus que Wikipédia, ils ont absorbé Reddit, etc. Et alors, à ce moment-là, s'il y a un auteur légitimement qui trouve que son travail a été absorbé, quelle est la part de l'auteur dans ce travail algorithmique ? Et puis après, tu peux aussi te dire, oui, mais après, il y a OpenAI qui a construit l'algorithme, il a peut-être aussi, lui, des intérêts à défendre en termes de conception, d'agencement des mots, de tout ça. Donc, comment tu articules l'intérêt de l'auteur, il va peut-être représenter un pouillème de ce qu'a absorbé ChatGPT. Donc là, il va toucher un pouillème de centimes d'euros. Enfin,
tu peux aujourd'hui aller lire toutes les œuvres d'un auteur et te dire j'ai appris de son style et j'ai décidé d'utiliser le même.
Alors, je suis d'accord avec cet argument, Cédric, mais je crois qu'il y a un tel changement d'échelle que l'argument devient, change un peu. Et c'est tout le problème qu'on constate aujourd'hui avec cette histoire de studios, de labels qui font supprimer des chansons avec les textes de loi qui ne sont a priori pas totalement applicables, c'est que la loi aujourd'hui n'est pas prévue pour gérer ces choses qui sont de nature véritablement différente. Alors oui, sur le principe, on va dire c'est de l'inspiration, mais ça devient tellement un travail industriel que je crois qu'il faut repenser, ou peut-être, je ne sais pas, mais en partie repenser la manière dont on réfléchit ces relations entre l'inspiration, le travail à la chaîne, le travail de l'IA. D'ailleurs, l'une des pistes de réflexion de l'Union européenne dans le domaine de l'IA, c'est le fait d'imposer aux modèles de langage de citer leurs sources, d'expliquer quelles sources ils utilisent pour construire leur modèle de langage, ce qui va donner naissance notamment à des modèles de langage qui sont copyright free, donc ils n'utilisent que de l'open source. Mais quand on parle de clonage de voix, par exemple, on prend de la voix d'une personne existante, mais Du coup, c'est ça le problème, c'est que cet aspect de la personne n'est pas vraiment copyrightable. Est-ce que ça peut être assimilé à du sample, ou est-ce que... Bon, il y a plein de questions qu'on pourrait se poser. Moi, il y a une autre utilisation qui m'a vachement interpellé ces derniers jours, c'est Chat YouTube. Est-ce que vous avez vu Chat YouTube ? Vous savez ce que c'est ? Pas du tout. Alors, Chat YouTube, c'est un outil auquel vous allez soumettre une vidéo. Par exemple, là, on était en train, vous avez raté dans le stream, la discussion sur la qualité des toilettes japonaises. J'ai trouvé une vidéo de Tev ici Japon, qui est un type qui vit au Japon, qui fait plein de vidéos, plein de trucs sur le Japon. Et il a une vidéo sur les toilettes japonaises et pourquoi elles n'arrivent pas en Europe. Je mets la vidéo dans Chat YouTube, simplement l'URL de la vidéo dans Chat YouTube. Je clique « Soumettre la vidéo ». Et qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Eh bien, il va me permettre de discuter avec la vidéo. Alors, de discuter avec l'entité de la vidéo. J'exagère un tout petit peu. Comment ça fonctionne, en fait ? Une fois qu'on lui a soumis la vidéo, il va nous sortir un résumé, d'une part, et ensuite nous dire « posez-moi les questions que vous voulez ». Donc, il nous fait un résumé, c'est en anglais, mais on peut aussi lui demander de le faire en français. Et ça, là, ça y est, entre le temps où je vous ai dit « je mets la vidéo » et maintenant, bah, il a fait le résumé. Et je me suis dit, moi, mais comment il fait pour résumer une vidéo ? Est-ce qu'il est allé regarder la vidéo véritablement sur YouTube ? Mais la vidéo, là, elle fait combien ? 23 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire sur les toilettes japonaises, hein, comme en témoigneront les gens qui nous ont regardés dans le live. Avant le lancement de l'enregistrement. En fait, non, il fait un truc super malin. Il va tirer le script de la vidéo. Parfois, les vidéastes intègrent le script au système pour les sous-titres et parfois, il est généré automatiquement par la reconnaissance vocale de YouTube. Mais dans tous les cas, il y a un script. Donc, il fait son travail sur le script de la vidéo plutôt que sur la vidéo elle-même. Mais c'est un petit peu la même chose quand on parle de texte. Et du coup, il nous résume la vidéo en deux ou trois paragraphes, puis ensuite, on peut lui poser des questions. Et j'en parlais sur le Discord. Je vous rappelle qu'il y a le channel IA générative sur le Discord pour faire des tests. Donc, sur le Discord de la communauté, vous pouvez aller regarder là-bas et on a des channels pour discuter d'IA également. Et notre ami Johan, avec lequel je fais d'ailleurs Super Laser Punch, dans lequel on a parlé, le dernier épisode, on a parlé de Guardians of the Galaxy 3, moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous encourage à aller écouter ce podcast-là. Et ben, il m'a dit, il a fait quelques tests là-dessus sur un plugin qu'il avait déjà lui et celui-ci également, le chat YouTube. Non seulement on a le résumé de la vidéo avec ChatGPT, ce qui est classique, mais il a également posé des questions, toujours par ChatGPT, comme par exemple, quels sont les procédés rhétoriques utilisés dans le texte initial ? Il a posé sur une vidéo que j'avais créée pour ma chaîne YouTube, dans laquelle j'explique qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de mauvais jeux. Et je pars sur de mauvais jeux vidéo, ma chaîne YouTube sur le jeu vidéo. Et donc, j'explique pourquoi je pense qu'il n'y a pas vraiment objectivement de mauvais jeux aujourd'hui. Et il demande donc, quels sont les procédés rhétoriques utilisés dans le texte initial ? Et ChatGPT, du coup, va nous faire la même la réflexion là-dessus. Alors voilà, il dit, il fait l'analogie, il explique ce que c'est que l'analogie, comment ça marche, question rhétorique. L'orateur pose plusieurs questions rhétoriques tout au long du discours, invitant l'auditeur à réfléchir sur le sujet. Par exemple, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Est-ce qu'on a le droit de dire que un jeu est mauvais ? Etc., etc. L'ironie, je fais un petit peu l'ironie. Quand je mentionne Jean-Kévin qui aime FIFA, c'est incroyablement précis, quoi. Moi, j'ai pas mis de script dans la vidéo, il l'a reconnu. Répétition, je dis Assassin's Creed, c'est du curry, répété plusieurs fois dans le texte, enfin dans la vidéo, etc., etc. Et on peut donc discuter avec la vidéo. Je trouve ça hyper innovant, hyper intéressant, et c'est assez fou de constater comme, encore une fois, bah, les utilisations de l'IA continuent à évoluer de jour en jour, quoi.
On est d'accord que ça a les mêmes limitations que ChatGPT, c'est-à-dire que c'est jusqu'en 2021
Alors, ça, ou... pas vraiment, puisqu'il va aller analyser le texte de la vidéo. C'est-à-dire que quand tu lui mets l'URL de la vidéo, il va accéder à YouTube, on parle de chat YouTube là, il va aller accéder par YouTube à la vidéo et en tirer le script. Donc n'importe quelle vidéo, tu vois, c'est pas qu'il l'a dans sa base de données.
Ça marche même sur des choses récentes.
Ah bah complètement, tout à fait, okay. Complètement. Il va intégrer le script de la vidéo telle qu'elle existe aujourd'hui. Il va simplement tirer le texte du script de la vidéo et travailler dessus avec les capacités de ChatGPT qui a été construit sur sa base de travail qui va jusqu'à 2021. Mais à la limite, pour analyser la vidéo ou discuter avec la vidéo, c'est pas très important qu'ils ne connaissent les faits d'actualité que jusqu'à 2021, quoi. Ah, bah, ça peut jouer, mais c'est pas c'est dans certains cas.
Je pose la question parce que je viens de tester sur une de mes vidéos récentes sur Frandroid et vu qu'on parle de produits qui sont tout récents, ça semble être une limitation.
Non, mais t'as raison. Pour certaines choses, c'est après de pas avoir le contexte.
Peut-être qu'après l'auteur de chat YouTube, parce que ChatGPT fonctionne gratuitement avec la version 3.5 de GPT 3.5 et l'accès à GPT 4 est payant. Enfin, il faut passer par un système d'API. Peut-être qu'à terme, soit les tarifs seront très abordables, soit OpenAI mettra ça gratuit. Mais moi, je pense que ça va être sur une version entre guillemets ancienne et pas forcément pluguée en direct sur Internet. Et tout ça pour dire qu'il y a eu un autre exemple assez récent fait par un développeur français dont le nom m'échappe, mais il a créé un LegiGPT et en fait il a entraîné.
On en parlait la semaine dernière.
D'accord. Bah, du coup, voilà, il a entraîné son système sur les codes français. Et en fait, tu peux dialoguer avec la loi. Alors, c'est aussi relativement récent, jusqu'en 2021 ou 2022, mais tu peux discuter avec la loi. Et les réponses qu'il donne sont plutôt bonnes en 3.5. Et il avait donné des exemples avec le GPT 4, qui était vraiment, enfin même certains avocats qui réagissaient en commentaire étaient assez surpris de la qualité du travail rendu.
Écoute, chat YouTube me fait mentir. La question sur les procédés rhétoriques, il n'a pas voulu y répondre quand j'ai posé la question en français. Mais ChatGPT, lui, il peut. Avec le plugin, Johan a réussi à faire ce travail-là. Effectivement, LegiGPT est hyper intéressant aussi. Une mention...
La vraie grande nouveauté du moment, c'est ça. Hein, c'est que tout à coup, on peut injecter maintenant des fichiers dans ChatGPT, lui filer un gros fichier Excel, un code source, etc., et lui demander de t'en faire une analyse. C'est là aussi, c'est confondant. Hein, c'est-à-dire que tu donnes un gros fichier plein de données financières très chiantes, etc., et tu lui dis sors-moi, les 5 faits marquants de ces données ou les 5 bizarreries que tu peux y trouver. Et il te les sort en disant, tiens, c'est curieux, regarde cette entreprise-là sur les 40 dernières années. Là, il y a quand même eu un gros à-coup en 74. Oui, c'était le choc pétrolier. Ah d'accord, ok, c'est normal. Alors.
C'est assez bluffant.
Chat YouTube accepte de me parler de rhétorique quand je lui parle en anglais. Donc, tout va bien. Entre parenthèses, ce qui est marrant, c'est que la vidéo elle-même que je lui ai soumise est en français et on en parle en anglais et ça se passe pas trop mal. Un dernier petit mot sur l'IA pour vous parler de DEFCON, qui est un salon de hackers qui a lieu régulièrement, c'est tous les ans si je ne me trompe pas. Ils vont avoir un village d'IA où ils vont encourager un certain nombre de hackers à casser les IA. Ça va être notamment sponsorisé par Microsoft, qui perd pas le nord, parce qu'ils savent qu'ils vont le faire de toute façon, donc autant y aller par nous-mêmes aussi. Mais donc, ils vont essayer de jailbreaker les IA, de trouver des failles, des biais, etc. Ça va être intéressant de suivre ça. Ça sera à la mi-août, et on en parlera sans doute au prochain épisode, à l'épisode d'après. Parce que vraiment, ce genre de convention de hackers, ça donne beaucoup de choses et ça remet les idées en place sur beaucoup de sujets. Donc, ça va être un petit peu l'examen de passage de l'IA. Et évidemment, on va trouver énormément de choses amusantes et dramatiques, mais ça aide évidemment aussi à perfectionner les produits. Hein, c'est le but et c'est pour ça que Microsoft y participe. Mais donc, on risque d'avoir des résultats intéressants là. C'est du 10 au 13 août de cette année. J'aimerais vous parler de Jean-Jacques Guazzo et Bast. Jean-Jacques Guazzo m'a envoyé un message pour me dire « Bonjour Patrick, j'écoute depuis déjà quelques temps ton émission sur Spotify. La qualité des contenus et le sérieux de tes propos ont fini par me faire attendre la sortie du prochain épisode à chaque fois. J'en suis à me dire que ma petite contribution est dès lors devenue pleinement justifiée et méritée pour ton travail. » Et tout ça pour vous dire qu'il a rejoint le Patreon, incroyable, merci Jean-Jacques. Il dit également, au moins, je saurai que quand j'entendrai le cling de mes clés, je penserai à toi sans me dire « mince, j'ai encore oublié de regarder combien ça coûte ». Vu que je t'écoute en voiture ou tard le soir, bonne continuation. Bast me dit aussi, merci pour tous ces bons moments. Après 3 ans à t'entendre le répéter, le sondage aura eu raison de moi, tu le mérites amplement. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci Bast, merci à vous tous. Et vous pouvez comprendre ainsi que le fait de contribuer au Patreon, eh ben, ça vous apporte quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire le fait de ne plus culpabiliser. C'est ça mon but en fait, vous faire culpabiliser. Non, pas vraiment. Si vous ne pouvez pas, si vous ne souhaitez pas soutenir, il n'y a pas de problème. Mais si vous y pensez ou si vous dites « Ah, oh, faudrait que je le fasse à un moment » ou « Ah, oh, vraiment, Patrick, il faut du bon boulot » ou « Ah, j'aime bien les émissions, j'attends la prochaine avec impatience », pensez-y, patreon.com/rdvtech. C'est facile, c'est rapide, ça prend 2 minutes et vous vous sentirez heureux ensuite. Bon, on va dire au minimum 3% plus heureux qu'avant. Je pense que ça vaut le coup. Et on continue avec la suite des informations. Patreon.com/rdvtech, je l'ai dit ou pas? Oui, patreon.com/rdvtech. Vous voyez, vous pourrez plus.
À 5 euros par mois, j'étais en train de me dire si c'est 3% de bonheur, alors 100% de bonheur, c'est combien? Et là, je me suis aperçu que c'était de l'arithmétique idiote. Donc.
Non, mais non, le truc, c'est que le bonheur, on va dire, ça n'a pas de prix, mais donc c'est quand même très, très cher. Mais au tarif normal, 3% de bonheur, ça te coûterait des centaines, des milliers d'euros peut-être. Et bien là, affaire incroyable, pour seulement aller 3 euros par épisode, tu chopes direct 3% de bonheur. C'est une affaire à ne pas manquer, Cédric.
Je pense en or.
Une affaire complètement.
Ouais, comme disait Coco Chanel, les meilleures choses dans la vie sont gratuites.
Les meilleures choses dans la vie sont
gratuites. Les meilleures choses dans la vie sont gratuites. The second best, les deuxièmes meilleures sont très très chères.
Bon, alors nous, on se contente des third best qui sont pas trop chers, mais qui sont cool quand même. Et pour l'after show, on va faire un truc rigolo. On va aller écouter l'épisode 110 d'il y a 10 ans, où on va parler des choses dont on parlait à ce moment et voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Vous allez voir, c'est plutôt rigolo. On écoutera un petit peu et puis on verra le programme. Il y a des trucs genre Yahoo qui rachète Dailymotion ou pas, le déploiement de la 4G, du VDSL2, plein de choses super intéressantes. Ça, c'est pour l'after show réservé aux Patriotes qui arrive après l'épisode classique.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et donc, on va continuer notre actu avec un sujet qui n'aura évidemment, qui va faire réagir, c'est des révélations sur la manière dont TikTok peut espionner ses utilisateurs. Il y a quelques mois encore, il était possible, d'après des employés de TikTok, d'accéder à un dashboard qui classifiait les utilisateurs en fonction de leurs intérêts. De leurs intérêts comment ? Par les vidéos qu'ils ou elles regardent. Et notamment, l'une des catégories, c'était les vidéos LGBT. Et évidemment, ce genre de classification est extrêmement problématique. Les employés ont fait remonter le problème au management de TikTok, qui a supprimé l'accès, mais on va y revenir dans un instant. Leur problème, c'était que soit les employés eux-mêmes pourraient utiliser ces informations à mauvais escient, en faisant chanter les gens ou en livrant des listes à des personnes pas très bien intentionnées. Et le principe même d'avoir des listes de personnes, enfin, C'est pour ça qu'on a la CNIL et qu'on a des lois sur les listes. On ne peut pas faire des listes de n'importe quoi, n'importe comment. Ça peut être, je vous laisserai vous renseigner si vous voulez savoir comment ça peut être mal utilisé, mais évidemment, les personnes qui regardent du contenu LGBT ne sont pas forcément elles-mêmes gays, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres ou ce genre de choses, mais ça reste une liste extrêmement problématique. Et comme je vous le disais, TikTok a répondu au Wall Street Journal qu'ils avaient supprimé l'accès à ce dashboard. Alors, ils ont plein, on précise, hein, ils ont plein de catégories différentes. Toutes ne sont pas problématiques. D'ailleurs, la plupart ne sont pas problématiques. Celles-ci, ils semblaient penser qu'elles n'étaient pas problématiques. OK, pourquoi pas. Mais ils ont supprimé l'accès à ce dashboard et à cette catégorie. Il y a, l'année dernière, aux États-Unis. Ailleurs, alors le Wall Street Journal s'y est peut-être pas intéressé, mais en tout cas, on ne sait pas encore. Moi, je serais curieux de savoir, peut-être que des médias de qualité pourraient poser la question à TikTok en Europe. Mais on ne sait pas si ailleurs dans le monde, il est toujours possible d'avoir une liste des utilisateurs de TikTok qui s'intéressent au contenu LGBT, ou même simplement de savoir à quel type de contenu un utilisateur donné s'intéresse et y trouver des choses qui pourraient être utiles pour, à des fins néfastes. Et je voulais ajouter une chose extrêmement importante que j'ai oublié à l'instant. Bon, c'est pas grave. Mais on le comprend, c'est tout à fait problématique ce genre de choses. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus.
Complètement d'accord. Et c'est pas la première fois que TikTok se fait attraper sur sa façon de gérer les données de ses utilisateurs. Il y a quelques mois, si je me trompe pas, TikTok avait été mis en cause pour avoir espionné des journalistes qui se servaient justement de l'application mobile pour leurs enquêtes. Et là, également, tu avais des employés en interne qui, visiblement, il y avait un problème de cloisonnement en fonction de ta position hiérarchique ou ton rôle dans l'entreprise, mais tu avais un problème de cloisonnement interne et tu pouvais facilement récupérer des données. Alors là, c'est pareil pour TikTok, c'est quand même ahurissant qu'on puisse récupérer comme ça des listes de personnes sur leurs intérêts, orientation sexuelle et tout. Il y a des applications pour lesquelles c'est tout à fait justifié. On pense à des applications de rencontre sur Tinder. C'est justifié que tu renseignes ton orientation sexuelle et que tu signales vers qui tu veux aller. Si tu es un homme hétérosexuel, tu veux peut-être t'orienter vers les femmes. Là, ça peut être justifié. Mais tu as aussi un éventail d'autres applications pour lesquelles c'est discutable et l'accès est encore plus discutable.
Je suis pas si radical que ça parce qu'en fait l'idée c'est pas des choses que les gens renseignaient dans leur profil, tu vois ce que je veux dire. C'est en gros la liste de leurs centres d'intérêt. Google a eu la même chose, hein, c'est-à-dire que évidemment ça intéresse Google de savoir le genre de choses que tu recherches et les sujets qui t'intéressent en général. Et un jour ils se sont aperçus sur d'autres sujets, sur la santé par exemple, que tout à coup, dans les listes agrégées par le système de tes centres d'intérêt, il pouvait y avoir justement, je sais pas, des maladies, des trucs, etc.
Oui, tes données de santé.
Voilà, c'était pas forcément tes données de santé, mais évidemment, si tu fais des recherches, je dis une bêtise, sur le diabète à longueur de journée, bon, ça
oui,
peut avoir...
Oui, on peut inférer que t'es concerné personnellement.
Voilà, ça infère des choses, on va dire, et ils ont compris que c'était un problème, et ils ont dit, bon, il est évident que ça, tout ça sort de, en tout cas, la partie du profil généré par le système qui va servir à cibler de la pub, par exemple. Sauf si vous allez délibérément... cocher dans mes centres d'intérêt, ce genre de choses. Et là, on est face à la même chose. C'est-à-dire que tout à coup, à la limite, c'est pas très grave que, je sais pas, n'importe qui, les gens, par exemple, qui gèrent la pub, qui vont avoir besoin de savoir un peu, d'avoir des grandes masses sur les centres d'intérêt, etc., qui sachent que t'es intéressé par, je sais pas, le tennis et les voitures anciennes. Mais si c'est les tennis, les voitures anciennes et les clubs gays, alors oui, là, ça devient problématique.
Et ce qui me préoccupe, en fait, il y a deux choses. C'est d'une part, beaucoup de gens disent « Ah oui, mais TikTok, enfin, qu'est-ce qu'ils vont savoir sur moi, ma date de naissance, mon nom, on s'en fout ?» Clairement, ce qu'on répète depuis longtemps, non. Avec les réseaux sociaux, on peut savoir beaucoup plus. Parce que là, on parle d'orientation sexuelle. On pourrait parler de préférences politiques ou de mille autres sujets, de santé, effectivement, comme tu le dis. Donc ça, c'est une bonne exemplification du type d'information qu'on peut avoir sur quelqu'un à travers ses habitudes de navigation et de consultation sur un réseau social. On parle de TikTok, mais c'est la même chose avec les autres. Là où ça me dérange plus particulièrement sur TikTok, c'est le fait qu'ils disent, par exemple, non, on a supprimé le truc aux États-Unis l'année dernière. Tu vois, c'est alors peut-être.
Mais pourquoi pas dans le reste du monde ?
Oui, c'est ça. C'est que et à la limite, ok, le reste du monde, peut-être qu'il y a des pays. J'ai du mal à imaginer des pays où c'est pas touchy d'avoir ce genre d'information. Mais peut-être. Et à la limite, moi, j'aimerais bien qu'on me dise en France qu'est-ce qu'il en est, en Europe, en Chine. Je veux dire, il y a des pays où ce genre d'information est extrêmement problématique, encore plus
à tous les pays du Proche-Orient ou du Moyen-Orient ou en Afrique où tu as des lois qui condamne à mort des homosexuels. Donc,
par exemple.
Là, pour ces pays, donc, on peut se dire aux États-Unis, c'est embêtant, mais je sais pas, je connais pas la législation de chaque pays, mais on peut imaginer que t'es homosexuel au Soudan.
Ah bah évidemment.
Si oui, TikTok est utilisé, c'est pas la même. C'est emmerdant aux États-Unis. Tu joues ta vie au Soudan.
Ouais. C'est même plus qu'emmerdant aux États-Unis dans certains États. Donc bon, voilà une contextualisation pour TikTok. Parlons un tout petit peu de Twitter un instant. Elon Musk a annoncé que les comptes qui sont inactifs depuis plusieurs années vont être archivés. Alors on ne sait pas très bien ce que veut dire archiver dans le contexte des comptes Twitter.
Et puis on ne sait pas trop ce que veut dire inactif.
Ouais, on ne sait pas. Alors il dit depuis plusieurs années. Donc au moins il y a mais ça. Mais est-ce que c'est 3, 5, 10 ?
Ça veut dire tu ne t'es pas connecté depuis, tu n'as pas. Ouais.
Tu n'as pas envoyé de tweets.
Il y a plein de gens sur Twitter qui ne font que lire. Hein. Ça c'est pas.
Oui.
J'imagine que ça sera qu'ils ne se sont même pas connectés parce qu'effectivement il y a des gens qui sont uniquement lecteurs. Puis archiver. Alors ce qu'on sait, c'est qu'a priori ils seront plus comptés dans les comptes de personnes qui vous suivent. Donc ça risque de faire chuter un petit peu pour certaines personnes les comptes de followers. Mais bon, donc bref, ils seront archivés. Mais au-delà de ça, on a un email qu'il a envoyé à un journaliste de NPR. NPR qui a décidé de ne plus tweeter suite au problème de labellisation de médias d'État, etc. Et il lui a envoyé un email en disant « Bon, est-ce que NPR contre tweeter ou est-ce que je peux réattribuer son ID Twitter ?» Et c'est vraiment... Alors moi, l'image que ça m'a évoqué, c'est vraiment... Don Corleone, quoi. Enfin, c'est... Ah, ça serait dommage qu'un truc arrive à votre compte Twitter. Vous comptez tweeter ou pas ? Parce que moi, je dis ça, je dis rien, mais vraiment. D'ailleurs, je ne sais plus si j'en parlais la semaine dernière, mais puisqu'on va combiner les deux, ça va bien marcher. J'ai fait sur BotNotPatrick, donc mon compte Twitter, un sujet là-dessus, un petit sujet. J'ai juste fait lire à mon IA cloné de ma voix, en français ce coup-ci, et je crois que je ne vous l'avais pas encore fait écouter. Je vais faire comme ça. Et voilà ma voix clonée à partir de ma voix en français avec le modèle français de toujours Eleven Labs. C'est beaucoup plus convaincant que la voix faite à partir d'anglais.
Avec voilà un aplomb digne de Don Corleone, Elon Musk a envoyé un email à un journaliste de PBS pour leur demander s'il comptait utiliser le compte à nouveau ou s'il pouvait le réattribuer. Un chantage qui ne va pas arranger la confiance en Twitter.
C'est pas parfait, hein, mais on est quand même.
Ah, il n'a pas ton côté enjoué, tu vois.
Bien sûr, ouais. Bien sûr.
Mais c'est assez. Enfin, je veux dire, on pourrait se dire que c'est un Patrick un peu terne aujourd'hui, un peu triste, un peu fatigué, un peu enroué. Moi, je pourrais y croire.
Ouais,
si je fais pas attention.
C'est marrant parce que quand j'avais fait écouter les tests précédents qui étaient faits à partir de voix en anglais.
While the Xbox Series X
c'était pas du tout ça. Là, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, plusieurs personnes sur Twitter m'ont dit « Ah oui, moi, j'aurais pu me laisser avoir, quoi. » Bon, après, c'est si on enquête un petit peu plus. Bon, bref, peu importe. C'est pour vous montrer que les voix
évoluent. Avec un aplomb digne de Don Corleone, Elon Musk a envoyé un email à un journaliste de PBS pour leur... Bon, vous avez ma voix, ma vraie voix à côté juste maintenant, donc vous sentez la différence, mais sans ça, peut-être que... Mais donc, on parlait d'Elon Musk, je trouve ça, encore une fois, assez limite, quoi. Ah, vous comptez l'utiliser ou pas? On va le supprimer? C'est hyper important, le compte Twitter, même si on ne l'utilise pas pour l'identité, tout ça.
Ça fait un petit peu un côté adolescent qui prend sa revanche. Quand NPR a dit qu'il allait arrêter de tweeter, on sent que là, il a envie de rendre... un taquet à NPR parce que voilà, ça lui a fait mauvaise pub. Enfin, il me semble pas que dans les conditions d'utilisation, on soit forcé de publier à tel ou tel rythme.
Ah ben non, bien sûr que non.
Moi, j'utilise relativement peu Twitter. Je suis présent, je lis, mais j'envoie un tweet tous les mois et c'est tout. NPR, il gère son compte comme il entend.
Oui.
Enfin, c'est étonnant, c'est étonnant.
Étonnant ou peut-être pas. Parlons un peu de sécurité chez Google. Ils ont fait plein de choses intéressantes chez Google, notamment l'implémentation de Passkeys. Alors, c'est quoi Passkeys? C'est un nouveau système dont on vous parlait il y a quelques temps déjà, qui vise à supprimer l'utilisation des mots de passe et à les remplacer par une identification biométrique qui sera faite par votre téléphone, même quand vous vous connectez, téléphone ou d'autres appareils, même quand vous vous connectez sur votre ordinateur ou un autre appareil du genre. Ça va être implémenté par tous les grands acteurs du marché. En gros, vous voulez vous connecter à un site, ça envoie un signal, une notification à votre application Passkeys, vous identifiez sur l'application Passkeys et ça vous log dans le site sans avoir besoin d'utiliser de mot de passe du tout. Alors évidemment, dans un premier temps, le temps de la transition, pendant sans doute plusieurs années, les mots de passe seront encore d'actualité. Mais à terme, bah, on n'aura plus besoin de mot de passe, ce qui sera pas un mal, parce que Password 123, c'est encore très, très, très utilisé. Je vais faire tous les sujets de sécurité de Google, et puis on pourra en parler après. Il y a Apple et Google qui ont une proposition de nouveaux standards de sécurité pour réguler les petits appareils de tracking, comme les AirTags ou les Tiles, ce genre de choses, vous savez, que vous mettez dans votre sac, et puis ça vous dit si vous l'avez oublié quelque part, ou si vous l'avez encore avec vous, où il est, si vous l'avez perdu, etc. Évidemment, ça peut être utilisé à mauvais escient pour suivre des gens. Et en gros, ce que dit le standard, la fonctionnalité principale, c'est que s'il y a un AirTag ou un équivalent qui n'est pas à vous, qui est à côté de votre appareil, de votre téléphone, pendant un peu trop longtemps, eh ben ça va vous le signaler sur votre téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android. Donc, si le standard est établi, ça sera sans doute une bonne chose pour contrer au moins une partie de ce genre d'utilisation. Google a également décidé d'ajouter des checkmarks sur Gmail, et ce n'est pas les vérifications type Twitter, c'est un système qui s'appelle le Brand Indicator for Message Identification. En gros, c'est pour éviter le phishing et le spam. Une société qui est identifiée avec ce système, qui n'est pas propre uniquement à Google, aura désormais... Avant, en fait, ils avaient un petit logo de leur société à côté de leur nom dans Gmail. Aujourd'hui, ils auront un petit blue checkmark, comme celui de Twitter. Ça vous permettra d'être sûr que la société qui dit être, je ne sais pas moi, Google ou Toto pour les toilettes japonaises, c'est bien eux qui vous envoient un mail et pas quelqu'un qui essaye de vous arnaquer en vous attirant avec les toilettes japonaises Toto et en volant tous vos mots de passe. Et puis la dernière chose, c'est le cadenas dans Chrome. Vous savez, dans l'URL, vous avez un petit cadenas qui vérifie que le site est bien en HTTPS, qui était un gage de sécurité jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, bon, c'est plus aussi sûr que ça, parce que même les sites en HTTPS peuvent essayer de vous arnaquer. Et même, les certificats sont tellement bon marché que n'importe qui peut avoir un certificat. Et le truc, c'est que aujourd'hui, tous les sites sont en sécurisés en HTTPS, donc ça ne veut plus dire grand-chose, quoi. Donc voilà, ça fait un paquet de sécurité, c'est plutôt bien de la part de Google, mais il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, notamment le truc de Passkeys et
tout ce qui permet de venir au bout des mots de passe est bon à prendre. Hein.
C'est... Ouais, tu es pour.
Mais oui.
Tu as installé Passkeys du coup ?
Non, encore. Pas encore. Parce que moi, j'ai déjà un Password Manager, ça fonctionne. Enfin, mais tu demandes aux gens, je veux dire les gens normaux, hein, comment ils gèrent leur mot de passe. Je te jure, trois fois sur quatre, tu finis la tête dans les mains en disant « je peux pas croire que tu fais
ça ». Oui, oui.
Voilà.
Bien sûr. Même les spécialistes tech ne sont pas non plus des parangons de vertu sur la gestion des mots de passe. Moi, je suis passé depuis plusieurs années sur un gestionnaire de mots de passe, donc là-dessus, voilà, ça m'a vraiment fait j'ai vraiment fait un saut qualitatif.
T'as fait un level-up de ta sécurité.
Voilà, chaque site a son mot de passe. Je laisse le gestionnaire me proposer une génération, il enregistre, etc. Et là, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que tous les gestionnaires, en tout cas les principaux, commencent à faire une transition vers ces passkeys. Bon, ils n'ont pas le choix. Hein. Si le jour où les mots de passe disparaissent, eux seront emportés dans la tombe. Donc, ils sont aussi eux-mêmes en train de s'adapter pour gérer justement ces clés d'accès, ces nouvelles clés d'accès à votre place. Quoi.
Tout à fait. Titouan, je suis sûr que tu... Oui, vas-y.
Moi, j'ai essayé déjà. J'ai essayé et j'ai pas bien compris quelle était la différence entre une double authentification. Enfin, en pratique, moi, c'est vrai que j'en arrive au même résultat. C'est-à-dire que j'ai une notification sur mon téléphone et hop, je valide. Alors, effectivement, je crois que ça passe plus du tout par le mot de passe. C'est ça, c'est directement. En fait, c'est comme si on retirait une étape, quoi.
En fait, oui, c'est comme si... Enfin, tu peux ne plus du tout avoir de mot de passe. C'est un petit peu la double authentification tout intégrée. Imagine une triple authentification sans l'authentification du mot de passe, donc qui redevient une double authentification. C'est-à-dire que tu as l'application elle-même avec laquelle tu t'es identifié et tu as ta personne, toi, enfin l'application ou l'appareil ou ce genre de choses, et tu as ta personne parce que c'est généralement biométrique. Donc, tu as quand même deux facteurs. Peut-être que tu peux en avoir un seul qui sera juste, je ne sais pas, ton visage ou si tu peux te connecter de n'importe où. Mais tu as des facteurs qui sont simplement des facteurs de connexion qui ne sont plus ton mot de passe. Donc, ça peut beaucoup ressembler à la double authentification, effectivement. Même si la double authentification, c'est beaucoup des codes temporaires. Là, on parle plus d'identification biométrique plutôt que les codes temporaires, évidemment.
Oui, non, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, moi, à force de tester les téléphones, j'ai 14 téléphones sur mon compte Google. Ouais. et donc, tous ceux qui n'ont pas mes données biométriques dedans, je ne pouvais pas les ajouter en passkey, tout à fait. Ouais.
C'est ça, exactement.
Donc, OK.
Donc, bon, nous avançons vers un futur sans mot de passe. Je pense que la prochaine grosse étape, maintenant que Google a sorti son application, c'est l'implémentation intégré à iOS, peut-être avec la prochaine version d'iOS présentée dans quoi, 2 semaines, 3 semaines,
ouais.
À la WWDC. Je pense que ça sera l'impulsion supplémentaire qui fait que la transition commencera véritablement. Cette transition va prendre plusieurs années. Hein. D'ici à ce que vous soyez assez à l'aise pour dire « Ok, supprime mon mot de passe, je ne pourrai plus me connecter avec mot de passe du tout », je pense qu'il va se passer un petit peu de temps. Mais on y arrive. Et d'ailleurs, je parle de la WWDC, il y a Google I.O. qui arrive, c'est quand demain, Google I.O., la conférence pour développeurs de Google, dans laquelle non seulement ils vont présenter des nouveautés sur leur système, leurs API pour les développeurs, mais aussi leur nouvel OS à Android 14. Il va y avoir une nouvelle version, semble-t-il, de Bard, ou en tout cas d'outils d'IA générative incluant Palm 2, leur large language model qui inclura une centaine de langues, le nouveau Pixel, on parlait du Pixel Fold qui a été teasé, donc un téléphone Android de Google pliant, qui a été teasé, donc qui est en fait confirmé. Il y a des choses sans doute intéressantes. J'imagine, toi, Titouan, que tu vas suivre ça en direct avec le popcorn et le
PC pas loin pour taper les articles.
C'est ça.
Ouais,
il y a des choses que tu attends particulièrement de I.O. cette année ?
Oui, alors ce qu'on attend... Déjà, il y a Bard, effectivement, parce que c'est un petit peu... Ça va être intéressant. C'est le moment où on a l'impression que Google va répondre peut-être à Bing, si on peut mettre les choses comme ça. Donc ça, on s'attend à ce que même la conférence soit... Vu que c'est quand même une conférence pour développeurs, au départ, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses là-dessus.
C'est leur chance de répondre, parce que Bard n'est pas encore disponible publiquement. Donc c'est leur IA, et c'est leur chance de taper fort après une présentation il y a quelques semaines dont on parlait, qui avait vraiment énormément déçu. Leur chance de taper fort et de montrer qu'ils sont vraiment dans la course, peut-être pas livrer leur outil immédiatement au grand public, mais enfin il faut qu'ils fassent bonne impression.
Que la démo.
Voilà, que la démo fonctionne.
C'est ça.
ça serait déjà
exactement
ça.
Qu'il n'y ait pas de grosses catastrophes comme quelque chose de faux dans la démo comme la dernière fois.
Ah, j'ai oublié mon téléphone. Bon bah c'est pas grave, on va pas faire la démo quoi.
Et oui, par exemple. Et après, nous, bah, ce qu'on attend, évidemment, c'est les deux pixels, parce qu'il n'y a pas que le Fold, il y a aussi le 7A qui fuite de partout. Là, on l'a vu, même, il y a des pubs dans Paris.
Il y a des affiches dans Paris, ça y est. Enfin, oui. C'est, on est au-delà de la fuite. Hein,
on peut quand même en parler, je pense, quasiment à l'indicatif.
D'accord. Oui. Ça,
si tu es un journaliste et que tu as signé un NDA en disant non, c'est promis, j'en parlerai pas jusqu'au lancement, là, tu vois les pubs dans des bus, tu te dis, mais il y a un problème.
Bah oui, tout à fait. Ouais. Je suis dans cette situation. Alors, je vais quand même pas parler à l'indicatif non plus, mais on l'attend. On l'attend beaucoup.
D'accord.
Et oui, le Pixel 7A qui sera le. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le milieu de gamme de Google qui va montrer les grandes qualités en photo de Google, comme d'habitude.
Alors, pour Patrick, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il a déjà le smartphone, mais il ne peut pas nous le dire. Voilà, j'essaye de...
On imagine
il ne peut pas prendre part à cette conversation, mais selon toute probabilité, il sait déjà tout ce qu'il y a à savoir. Le problème, c'est qu'il est entre l'arbre et l'écorce, tout le monde sait que ce truc existe, mais... Donc tout le monde a le droit d'en parler, sauf moi, ce qui est le pire du pire de l'accord de confidentialité.
C'est quand même assez drôle, ces NDA, quand ce genre de choses se produit, et ça arrive dans le jeu vidéo, dans la tech. On signe un accord de non-confidentialité pour avoir un produit avant sa sortie, avant même son annonce, et donc on s'engage à ne pas en parler avant une date donnée. Et parfois, il y a des fuites, comme c'est le cas ici, qui fait que tout le monde sait tout et que nous, on n'a toujours pas le droit d'en parler.
C'est très, très régulier même. Hein. Enfin, il y a même des marques qui sont spécialistes. Bah, Google en fait partie. Samsung aussi, en général, on sait tout avant... Voilà.
Très bien, donc ça c'est la Google I.O. Bah, ça sera, enfin, au moment où vous écouterez cet épisode, c'est demain 19h, me dit-on dans la chatroom, donc voilà. Quoi d'autre des nouvelles un petit peu de l'Union européenne et de la France, avec par exemple l'établissement d'une société qui va lancer Iris 2. C'est quoi Iris 2? C'est un compétiteur de Starlink bien de chez nous, un compétiteur européen. Alors, il y a plein de sociétés européennes prestigieuses de l'espace et de la défense, Airbus, Eutelsat, Thales, etc., etc. Le but étant effectivement d'avoir un réseau de satellites qui fournissent Internet partout, qui soit européen, pour ne pas dépendre de Starlink. On peut le comprendre, l'Union européenne et les États européens n'ont pas forcément envie de dépendre des humeurs d'Elon Musk. Et Starlink, et de, non plus des autres, comment il s'appelle, Blue, je ne sais pas quoi, enfin les trucs d'Amazon, etc.
Le Kuiper.
Kuiper, voilà, de Kuiper Belt, mais pour la Terre. Et du coup, avoir une, c'est une question d'autonomie géostratégique, quoi. Parce que ça devient un service qui va être important dans certaines situations et l'Union européenne doit se doter d'un outil de ce type, d'un service de ce type. Il y a eu des chiffres et des informations révélées sur les influenceurs et la pub dissimulée. Avec 60% des influenceurs contrôlés par la DGCCRF qui ne respectaient pas les règles sur la transparence sur la publicité. C'est quand même fou, 60%. Alors j'imagine qu'ils sont allés chercher ceux qui étaient les plus suspects, mais 60% d'influenceurs qui font de la pub sans dire que c'est de la pub, alors je comprends qu'ils ne soient pas journalistes et qu'ils ne soient pas aussi clairs pour eux qu'il est obligatoire de le mentionner, mais je suis quand même surpris, 60%, c'est énorme. Bon, en tout cas, les choses vont changer, ils sont assez...
Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance.
Mais vraiment, est-ce qu'on peut ignorer ?
Pas volontairement. C'est que tu mettons que tu ouvres ton compte Instagram, t'es un jeune homme, une jeune fille, t'as envie de te dire, il y a plein de, tu idolâtres un certain nombre d'influenceurs et d'influenceuses. Toi-même, t'as envie de te lancer dans ce milieu. Tu commences un peu à contacter les marques et tout ça. Tu perces. Mais c'est pas dit que les marques elles-mêmes te disent quoi faire. Ça, je ne sais pas. N'étant pas moi-même influenceur. Et puis si ces personnes-là démarrent, elles ne s'entourent pas nécessairement d'un conseiller juridique pour te dire il faut que tu mettes hashtag partenariat rémunéré, etc. À un moment donné, tu as beaucoup de d'ignorance, mais par de façon candide.
Je peux imaginer qu'il y en a, mais je pense qu'il y en a aussi qui se disent ouais, « ça va, c'est bon ». Et puis si on dit que c'est de la pub, ça va. Mais parce que, tu vois, pour moi, ça fait partie de... Je sais pas, ça fait partie de... Peut-être parce que je baigne dans les médias, mais ça fait partie des choses que tout le monde doit savoir. Genre, oui, t'es pas censé rouler au-delà de la limitation de vitesse. Ok, bon, c'est peut-être un mauvais exemple parce que tu passes ton permis. Mais oui, tu n'es pas censé, je sais pas moi, poignarder les gens dans la rue, tu vois. C'est quelque chose qui est une sorte de connaissance commune de la société, tu vois. J'exagère un poil.
Mais... Oui.
Ça n'empêche pas qu'il y a des excès de vitesse et des meurtres chaque année. Donc c'est vrai que...
Oui. après, faut mettre où est la ligne dans le sable entre tu vois, le côté, le sous-entendu de... Si tu fais une vidéo YouTube en disant, voilà, je voudrais remercier, je sais pas, NordVPN qui m'a aidé à faire cette vidéo. Ok, toi et moi, on comprend exactement de quoi il s'agit. Ouais. Après, c'est peut-être pas assez explicite pour le législateur. Si tu es dans une espèce de zone un peu grise, après, ce contre quoi il faut lutter, évidemment, c'est la pub quand elle est dissimulée. Tu vois, dire j'ai testé le dernier repos, il est vraiment génial. c'est un mauvais exemple.
On parle beaucoup de lifestyle, de beauté.
Au pot d'éclair, c'est partenariat.
Oui, voilà. C'est-à-dire que je pense que quand les gens parlent de NordVPN, dans ce genre de contexte, on a l'habitude. Et généralement, on dit c'est le sponsor de cette vidéo, tu vois. J'imagine que ceux dont on parle ici, c'est beaucoup, j'adore ce produit, on parle de vraie fraude. Mais bon, en tout cas, ça va être beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus encadré, et c'est pas plus mal. Et puis, est-ce que vous connaissiez le bonus réparation ? Bah, si vous dites non, vous êtes peut-être dans la norme. Il y a des sommes qui peuvent vous être versées par l'État pour réparer vos smartphones, vos PC portables, etc. Ah oui. Et très peu de gens l'utilisaient. Alors, dans l'article de Numérama, il y a le chiffre exact qui a été utilisé. Ah, c'est ça. Alors, il y avait 62 millions d'euros qui avaient été réservés pour 2023. Et jusqu'à fin avril, seuls 500 000 euros avaient été utilisés. Donc, le gouvernement redouble d'efforts pour que les gens sachent et double également les montants. Par exemple, on peut bénéficier de 50 euros pour la réparation d'un smartphone. Alors, il y a des conditions, il faut que la réparation coûte plus que ça, etc. Tout ça. Mais la somme peut encourager les gens à réparer plutôt que de jeter et racheter ou revendre et racheter.
Ça fait partie de la loi sur l'économie circulaire. Ils essayent d'inciter les gens à s'orienter plutôt sur la réparation si l'appareil n'est pas trop esquinté. Et ça va bien au-delà de la tech. Hein. On peut réparer, enfin, au-delà des smartphones, des tablettes, ça peut être des téléviseurs, même des perceuses. Enfin, il y a beaucoup de matériel électronique et électrique qui peuvent rentrer dans ce cadre. Mais c'est vrai que personne n'en parle. Et les montants initiaux étaient un petit peu bas, donc ce qui pouvait n'être pas forcément incitatif à se tourner vers un réparateur. Pour qu'il en prenne, enfin, que l'État en prenne une partie de la dépense.
Oui, là on a
effectivement c'est très listé. Il y a beaucoup de conditions pour que ce soit applicable.
En fait, pour que ça marche, il faut que les enseignes se l'approprient. Je crois qu'aujourd'hui il y a Boulanger qui est dans la boucle.
Et Leclerc,
mais en clair, il faudrait quand même que, je sais pas, Fnac Darty soit dedans. Et voilà.
On est d'accord. Ouais.
Parce qu'évidemment, si tu apportes un truc à réparer et qu'on dit, bah écoutez, ça tombe bien, ça tombe dans le bonus, un peu comme, tu vois, le bonus écologique quand tu achètes une voiture électrique, où c'est le concessionnaire qui, vous inquiétez pas, je gère le truc, pour vous, ce sera juste moins cher, vous n'avez pas à gérer l'administratif. Enfin, il faut que ce soit transparent pour que les gens l'utilisent. Ouais. Et là, c'est vrai que on trouvait que l'enveloppe n'était pas énorme, mais elle est encore très, très largement sous-utilisé.
Exploité,
il faut juste que les enseignes s'y mettent. Mais pour elles, c'est plus de la complication qu'autre chose. Quoi. C'est pas... D'autant qu'elles ont aussi leur propre solution en face. C'est-à-dire que, tu vois, Darty, par exemple, a une formule d'abonnement, je sais, j'y ai souscrit, qui dit, voilà, pour 10 balles par mois, tout votre électroménager est couvert par une garantie illimitée. Et forcément...
Oui, ça les embête peut-être un peu commercialement d'avoir un système
concurrent. Ça coûte dire, mais alors on va déduire de quoi ? De l'abonnement enfin, c'est presque, tu vois, ça brouille le message, c'est compliqué, etc. mais malgré tout, pour que ça marche, bah voilà, il va falloir gagner le cœur des distributeurs.
Quoi d'autre à propos de téléphone et de réparation, ben, il semblerait que certains de la génération Z donc les jeunes, hein, soient en train d'abandonner les smartphones et rachètent des bons vieux flip phones, des trucs
j'en
qu'on trouvait au début des années 2000. T'en as vu, toi ?
Oui, oui. À Montréal, le mois dernier, à un bar où j'étais avec des amis, je regarde et à ma droite, il y avait une jeune femme. Ouais, Gen Z, ouais. Et je, au début, je me dis, tiens, c'est un pliable. Je dis, mais attends, c'est je n'osais pas aller la voir en disant, c'est quoi ton téléphone ? Tu vois, c'est bon, pas déconner, non. Elle aurait pu prendre ça pour une espèce d'entrée en matière un peu awkward, quoi. Tu sais. Mais c'était pas du tout l'idée. Et de fait, c'était un flip phone à l'ancienne, quoi. Tu vas regarder, tu peux les acheter en ligne, il y en a plein, ils coûtent 3 francs 6 sous, quoi. Je l'ai vu, elle envoyait des messages, elle faisait du T9, souvenez-vous.
C'est les fameux dumbphones.
Oui, c'est voilà. Ça.
Et nous, on les voit souvent ressortir dans les... Alors, on n'en traite pas beaucoup sur Frandroid, mais on commence à y réfléchir, effectivement, parce que on les voit ressortir de plus en plus dans les tops des ventes et tout. Donc,
les gens se précipitent, les jeunes se précipitent dessus parce qu'ils ont une fatigue des notifications et des sollicitations sociales permanentes de leurs réseaux sociaux. J'imagine TikTok, Insta, Snap.
Oui, c'est ça. Je l'ai pas mentionné, mais évidemment, c'est la raison. Oui.
Épuisé.
Ouais.
Et alors le marché qui reste pour les dumbphones, parce que là aussi, je peux vous en parler en tant que client, c'est pour les enfants. Parce qu'évidemment, moi, j'ai pas du tout envie de. Moi, j'ai mon fils, 10 ans. Qui me dit, mais pourquoi je peux pas avoir un iPhone 14 Pro Max ? Et que non, enfin je veux dire, I'm not made of money, quoi. Et surtout, tu vas le détruire en 48 heures, donc voilà. Et je lui ai mis des pixels dans les mains, hein. Avec une bonne coque, un pixel, c'est génial. Et surtout, on en a déjà parlé dans ce podcast, mais le contrôle parental de Google est vraiment remarquable. Mais du coup, j'ai regardé du côté des dumbphones, parce que j'en avais assez, parce que c'est une course aux armements. Hein, j'ai une espèce de mini-hacker à la maison qui essaie de trouver. Je pense qu'il doit venir la nuit, tu vois, pour prendre mon iPhone, déloquer Face ID pour arriver à autoriser... voilà. Parce que parfois, je dis, mais comment ça t'as accès à ça ? Mais depuis quand t'as accès à ça ? Je sais pas. Voilà. Et du coup, je recherche des dumbphones et j'en retrouve un. C'était quoi ? C'était un Nokia, un flip phone. Et je dis, tiens, voilà, on va mettre la SIM dedans, allez, c'est parti. Et puis, je me dis, il va se plaindre, il va chouiner, c'est forcément.
Oui.
Il va
bah oui, oui, bien sûr, c'est ce que j'ai te demandé.
Et il me dit rien. Je me dis, oh, c'est finalement, ça marche bien. Puis un jour, quand même, je lui prends le téléphone pour prendre une photo, je vais dans les applis, et là, dans les applis, je vois YouTube, WhatsApp.
Malin.
Il manquait que Minecraft, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a un peu de feature creep, comme on dit, dans les dumb phones maintenant. Donc faites attention, prenez un dumb phone vraiment, vraiment bien dumb, quoi.
Bien dumb, ouais, très bien. Eh bien, écoutez, je pense que... Oui, pardon, vas-y.
Non, pardon, je veux juste rebondir. Je vois dans l'article que tu as partagé, il mentionne le Galaxy Z Flip 4, qui du coup, donc les fameux pliants...
Qui n'est pas tout à fait dumb, celui-là.
Qui n'est pas du tout dumb, qu'on peut plier en deux. Et en fait, c'est intéressant parce que moi, je fais partie de ceux qui aiment bien ce type de... Ce n'est pas un format qui est très, très apprécié chez tous les techos, etc. Parce que c'est simplement un smartphone qu'on plie en deux, quoi. Mais justement, un de ses attraits, je trouve, c'est de pouvoir déconnecter beaucoup plus facilement. Car on peut vraiment... fermer le téléphone physiquement et se couper d'un certain nombre de choses.
Petit écran sur le dos quand même.
Tout à fait. Donc ça permet de rester au courant sans rentrer un petit peu dans les dark patterns. Voilà, on n'a pas envie de lancer TikTok tout de suite. Bah non, on a juste vu la petite notification et hop, on peut continuer sa vie. Et je trouvais qu'il y avait vraiment ça dans le Z Flip. Je sais pas, apparemment Samsung laisserait tomber cette idée et maintenant ils mettraient un grand écran en face avant
ouais.
Pour le prochain,
donc
ils vont peut-être arrêter.
Mais il va falloir que tu
ressortes
un 33
marché avec les Gen Z, c'est ça. Mais peut-être que si les Gen Z se mettent à acheter massivement des téléphones pour déconnecter, il y aura peut-être quelque chose à faire aussi.
Peut-être, ouais. Alors quelque chose entre les deux, parce que là on parle vraiment Cédric évoquait le dictionnaire T9, c'est de ça qu'on parle, hein, avec les... c'est le pavé numérique où t'as pas les, enfin t'as 3 lettres par touche, donc c'est problématique.
Ah là là.
j'ai connu
ouais. Et souvenirs.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission animée et sympathique. Je vous confirme que vous avez tous les trois été les gagnants du charme. et ah. de l'excellence. Donc,
ah. ils sont gentils.
C'est ça. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez me dire où on peut vous retrouver, s'il vous plaît ? Commençons par Titouan, par exemple.
Écoutez, principalement sur Frandroid, soit sur le site, soit sur la chaîne YouTube de Frandroid. Et j'ai un petit Twitter, Titouan Gourlin. Voilà.
Magnifique. Très le simple. Twitter sera dans les notes de l'émission. Julien, où es-tu ?
Bien, c'est presque comme Titouan, sauf que moi, ça sera chez Numérama. Et vous pouvez également me retrouver sur Twitter avec un identifiant étonnant qui s'appelle FoxTFOXTEH. Et sinon, de temps en temps, sur Twitch, on a une chaîne de Numérama où on fait du jeu vidéo.
Parfait, merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver ton... C'était la panique, je fais passer les gens derrière le rideau. La panique avant l'émission, parce que je ne retrouvais pas ton ID sur Discord, qu'on utilise pour enregistrer. Et c'était genre, mais alors attends, est-ce que c'est Fox T, est-ce que c'est Julien Lawson ? Non, c'est encore autre chose. Ok, bon, très bien.
C'est autre chose.
Voilà, donc l'enfer des pseudos. Cédric, toi c'est simple, Cédric sur Twitter.
Voilà, préférez la simplicité, d'accord ?
Il faut pouvoir, hein, tout le monde n'est pas un early adopter incroyable. Est-ce que tu es sur Blue Sky déjà ou pas encore ?
Non, si quelqu'un veut bien m'envoyer une invite, je serais ravi d'essayer. Ouais, parce que voilà un truc qui ressemble, vu que tu ne peux pas demander des invites sur Twitter.
C'est ça.
Parce qu'évidemment,
du coup, peut-être que tu n'auras pas ton Cédric sur Blue Sky.
Oui, mais c'est pas, tu sais, je l'avais pas au début, Cédric. C'est pour ça que je m'inquiète de ce que disait Elon sur attention les vieux comptes. Parce qu'en fait, il y a un vieux @cingrand sur Twitter qui était mon premier compte et qui, le jour où j'ai pu récupérer @cédric, est devenu un truc de backup. Et donc je vais aller me loguer sur sur mon vieux Twitter. Juste pour le cas où un jour, je sais pas, je dise un truc où Elon dise toi finalement je t'aime pas et me ferme mon compte ou le reprenne pour, enfin je ne sais pas, voilà, donc je vis dans la sécurité complète @cédric sur Twitter, et sinon les doigts dans la prise, le podcast sur la voiture électrique, la voiture autonome et tout ça, qui s'alimente d'ailleurs régulièrement des contenus de Numérama, mais ça je le dis souvent parce qu'ils font des trucs très très intelligents sur le sujet. Vroom
vertical, exactement. Super. Merci beaucoup, Cédric. Pour ma part, c'est Note Patrick. Vous me retrouvez partout sur les réseaux sociaux. Vous avez des liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission. Le Discord, où on s'amuse bien, où il y a des chaînes dédiées à l'intelligence artificielle générative, entre autres. Il y a aussi le Twitch, où on se retrouve. Alors, cette semaine, je vais faire des trucs tous les jours, j'espère, si ma fille retourne à la crèche demain, ce qui a l'air de prendre ce chemin. Donc, des Twitch tous les jours, avec mercredi, jeudi pour le rendez-vous jeu, et vendredi, on va faire du Zelda, vendredi un petit peu. Et d'ailleurs, en parlant de rendez-vous jeu, on va avoir... on a eu la semaine dernière un épisode fort sympathique. Je vous dirai peut-être régulièrement désormais ce qui se passe dans le rendez-vous jeu et inversement. Parce qu'il y a des choses qui vous... Peut-être pas à chaque fois, mais quand il y a des choses qui vous intéressent, potentiellement, même en tant qu'auditeur du Rendez-vous Tech, je vous le mentionnerai, c'est un auditeur qui a suggéré cette idée, un auditeur qui est aussi participant, Thomas, et je pense que c'est pas bête. Alors, ce que je dirais, c'est aller voir du côté du Rendez-vous Jeu cette semaine, il y aura peut-être des choses sympathiques, et puis on en reparlera la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le Patreon, patreon.com/rdvtech, évidemment, pour soutenir l'émission si vous l'appréciez. Vous savez que ça rend votre... Combien on avait dit ? 3% plus heureux, vous avez 3% plus de bonheur en vous abonnant au Patreon du Rendez-vous Tech. Moi, je pense que ça vaut la peine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.